Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en août 2014 et c'est le numéro 38. Bonjour à tous, pour ce numéro je suis avec notre hôte, fournisseur officiel de bière pour les rôlistes, Cobal.
Salut.
Tout en poil, transpiration et virilité exacerbée, Steve.
Salut.
Enfin notre toujours spécialiste des donjons, des dragons et des kobolds, Jean-Baptiste.
Hello.
Alors, aujourd'hui au programme nous avons Abstract Donjon par Jean-Baptiste, un peu moi, un peu tous les gens qui l'ont lu autour de la table. Nous avons quelque chose sur le jeu de rôle freeform par Steve, une mouvance.
À fait, on pourrait parler de la mouvance freeform, voire freeform. De la scène freeform, si on veut vraiment se la péter.
La scène freeform, ça me paraît bien.
Mais on est un peu ridicule.
La scène indie freeform, s'il te plaît.
Nous avons World War Korea par moi-même, et si on a le temps, on va le trouver, DD Next, DD 5, enfin je sais pas trop.
DD.
Donjon Dragon, par Jean-Baptiste aussi, et puis probablement les autres personnes aussi qui vont participer. On va commencer tout de suite par Abstract Donjon, par Jean-Baptiste, si tu es prêt.
Voilà, alors Abstract Dungeon, c'est le plus petit donjon, c'est-à-dire vraiment un système minimaliste, un jeu très peu connu, puisqu'on doit être allez, une vingtaine dans le monde à savoir ce que c'est qu'Abstract Dungeon. C'est vraiment quelque chose d'assez confidentiel, surtout noyé dans la horde des donjons et donjons-like qu'on peut trouver actuellement donc, sur Internet. Abstract Dungeon, ça a été financé donc par un Kickstarter à hauteur de 4 000 $, ce qui est vraiment peanuts si on pense à la scène rôlistique américaine. C'est un jeu qui est toujours en bêta, puisque la version finale n'a pas été libérée par l'auteur. Donc là, je vais vous parler d'une bêta de jeu, à savoir donc vraiment un JDR imprimé sur l'imprimante du boulot, sans mise en page, du blanc. C'est pas sexy. Et pourtant,
ça, c'est le PDF qu'ils ont diffusé il y a pas très longtemps, c'est ça ?
Moi, c'est la version bêta avancée à laquelle j'ai accès, alors que je n'ai pas souscrit parce que je suis arrivé vraiment après la bataille. J'y ai accès parce que quelqu'un de très très gentil du forum Casus, qui a été la personne qui a fait découvrir Abstract Donjon.
C'est bien petit, c'est du social engineering.
Non, mais voilà, il faut bien dire, il y a quelqu'un qui a crié dans le désert pendant des semaines avant qu'on ne l'écoute, à savoir donc Whimpering Vault, qui se reconnaîtra. Jean, merci à toi. Et donc, pour nous parler de ce petit abstract. Alors, globalement, on va arrêter de tourner autour du pot. De quoi il s'agit ? Pourquoi est-ce que je vous parle de quelque chose qui pourrait être, vous pourriez avoir tapé sur votre PC à la maison et imprimé dans votre garage ? Parce que c'est vraiment quelque chose de super intéressant, de très très bien pensé. L'objectif, c'est ils le disent eux-mêmes, c'est le Beer and Bretzel Game, donc c'est la partie express, la partie apéro, le jeu qui va se faire en 2h30 grand max, création de personnages comprise, tout ça pour faire donc du donge, la plus pure expérience dungeoneering possible, hein. On est là pour jouer des mages qui balancent des boules de feu, des barbares orques qui décapitent les gobelins par paquet de 12. Tout ça dans une ambiance franche et conviviale, à savoir de l'aventure, des princesses à sauver et des fins du monde à empêcher, mais avec un système ultra minimaliste et qui prend vraiment le contre-pied de beaucoup, beaucoup de jeux de rôle, voire la quasi-totalité d'entre eux. Alors, comment ça marche ? Très simplement, avec une fiche de perso minimaliste, donc 4 caractéristiques, toughness, spirit, agility and intellect. 3 traits totalement freeform. Donc
tu peux traduire éventuellement ?
Mais il y aurait débat. Donc toughness, on va dire que c'est globalement le physique, la force, un mélange de force et de constitution. Le spirit, c'est l'esprit, donc ta capacité spirituelle.
Mais c'est aussi pour l'éclair, l'âme.
L'âme, voilà,
la
c'est
volonté,
vraiment
les choses comme ça.
C'est, okay. Ces
donc, c'est peut-être les tripes ou un truc comme ça.
Non, ouais, ce serait la vigueur.
C'est tout, c'est la solidité du personnage. C'est ça, en gros, c'est à quel point t'es un dur.
Bon, de toute façon, on a quoi ? On a physique, esprit, donc âme, volonté. On a agilité, ça c'est facile.
Agilité, donc c'est tout ce qui est dextérité, capacité à faire des roulades et à sauter partout, évidemment. Et donc intellect, qui est la puissance intellectuelle pure, la mémoire, mais aussi la capacité de concentration propre aux magiciens, par opposition aux clercs et aux druides qui eux seront plus en spirit.
D'accord.
Donc, voilà, on a ces 4 caractéristiques, 3 traits donc complètement freeform, le joueur prend à peu près ce qu'il veut, alors on va lui demander de prendre des traits quand même relativement spécifiques, on évite de prendre le trait « je suis le plus fort du monde » par exemple, qui ne fera pas forcément avancer l'intrigue, mais par contre...
Est-ce qu'on a toujours le même problème à définir les traits qu'il y a un peu dans tous les autres jeux, à partir du moment où on donne une possibilité de faire quelque chose d'un petit peu large, et bien il faut quand même le cadrer pour éviter que les joueurs partent dans n'importe quoi.
Disons que... Pour moi, il y a deux points de vue là-dessus. Il y a le point de vue officiel, c'est qu'un trait doit forcément être plus restreint qu'une carac. Donc, il faut vraiment choisir... En carac, on a toughness. En trait, on pourra prendre poigne d'acier pour expliquer que le mec porte une épée gigantesque, etc., qu'il est capable de battre un orc au bras de fer, etc. Mais on se limite à ça. Donc, un trait doit être forcément plus précis. Après, de mon expérience, j'ai deux parties sous le coude de playtest de ce jeu. En fait, la méchanceté du meneur, ou plutôt sa capacité à restreindre les joueurs, c'est en fait le petit baromètre qu'il va utiliser pour déterminer quel niveau de gritty il veut sur sa partie.
D'accord.
Plus il va demander une définition précise, moins les joueurs seront forts, plus il laissera. Et on peut choisir de laisser un truc un petit peu light, plus on aura des personnages super héroïques capables d'avoir des traits qui fonctionnent sur pas mal de choses.
En fait, dans la version bêta qui est accessible à tout le monde, l'auteur précise qu'il ne faut pas jouer à son jeu si on veut un jeu gritty et difficile, et que la menace de la mort des PJ n'est pas vraiment là dans son jeu. Alors ce que tu dis, c'est qu'on peut en fait mettre le curseur un peu plus haut et...
On ne fera jamais d'Abstract Dungeon un jeu gritty. Voilà, pour la simple et bonne raison que les persos dès le niveau 1 sont des brutes. Voilà, donc c'est bon, le duel à mort au couteau contre un gobelin, non, c'est pas la peine, ça ne marchera pas.
J'aime bien.
C'est pas le genre de la maison.
Voilà, donc dès le départ, on parle d'une bande de PJ qui peut éclater un contingent orc sans trop de soucis. Les persos sont forts, vraiment. Ceci posé, on peut effectivement choisir d'être plus ou moins sévère sur la définition des traits, et donc de rendre les personnages plus ou moins forts. Donc on peut quand même maîtriser un petit peu le niveau de grittiness.
D'accord.
Maintenant, effectivement, on n'en fera pas un jeu gritty. Alors pour ce qui est de la mort, effectivement, c'est pas évident de mourir, mais faut pas se tromper. On peut y passer. Maintenant, comme l'auteur a une vision très, élargie, narrativiste des choses, en fait, il ne raisonne jamais en termes de mort, il raisonne en termes d'échec à dépasser un obstacle. Donc en fait, à partir du moment où les joueurs échouent, ça peut être effectivement, on échoue juste parce qu'on s'est fait, buter par le gros dragon, mais ça peut être aussi qu'on a loupé vraiment quelque chose, on n'a pas réussi à empêcher le grand méchant de s'enfuir et de poursuivre ses plans démoniaques, etc. Donc c'est vraiment la capacité juste à se planter. On peut se planter dans Abstract Dungeon.
D'accord.
Voilà.
Et l'échec, est-ce qu'il est collectif ou est-ce qu'il est individuel?
À mon avis, on va peut-être un peu loin. Si tu peux juste continuer, à moins que tu peux continuer, parce qu'on va peut-être en reparler juste après de ce point-là.
Voilà. Encore une fois, voilà, faut garder à l'esprit que moi, j'ai lu le jeu, j'ai que deux parties de playtest, et comme le jeu bouscule pas mal d'habitudes qu'on a, moi, je suis encore en train de chercher mes marques sur le jeu. Hein, okay. Voilà.
Alors vas-y, continue. Donc on a quatre caractéristiques.
Quatre caractéristiques.
Les caracs, les traits.
Ouais.
Et c'est tout.
Ah.
Et c'est ça qui est génial.
Ah la vache.
Ouais, ouais. Voilà, donc t'as tes 4 carac, tes 3 traits, ta petite réserve qu'on appelle le D-bonus, et basta. Donc à partir de là, donc ton job au niveau 1, quand tu crées ton aventurier, ça va déterminer quelle est ta... En fait, tu vas donner une hiérarchie à tes 4 caractéristiques, savoir quelle est la plus puissante, quelle est la moins puissante. Donc ça va les carac 1, 2, 3, 4, 4 étant la plus costaud, 1 étant la moins costaud de tes 4 carac. Et tu vas juste définir tes traits en freeform. Une fois que tu as fait ça, tu vas, et c'est là le moment où Abstract Dungeon change tout, tu vas lancer tes dés une bonne fois pour toutes pour la partie. Avant même que la partie ait commencé, tu vas expédier tout le hasard, en tout cas de ton côté à toi en tant que joueur, tout le hasard va être expédié. Et en fait, les chiffres que tu as attribués à tes caracs, c'est le nombre de dés de réserve dont tu disposes dans cette carac. Donc très concrètement, tu joues ton guerrier orc, tu as mis ton 4 en toughness, début de partie, tu vas lancer 4d6, puisqu'on fonctionne uniquement au d6 dans Abstract Dungeon, 4d6, tu vas les garder bien en évidence, donc chaque joueur doit avoir son pool de dés, tu vas les poser dans ton petit cercle, donc toughness sur ta feuille d'aventure, tes 4d avec les résultats que tu as obtenus, donc mettons que tu obtiennes 2, 3, 4, 5, truc statistiquement probable ou quelque chose comme ça, tu auras donc tes 4d avec ton 2, ton 3, ton 4 et ton 5 sur ta toughness. Voilà. Du niveau du joueur, une fois que tu as fait ça pour tes 4 carac et que tu as fait le dé qui correspond à chacun de tes traits, tu as un dé par trait quand ton personnage est niveau 1, c'est bon, tu as aussi ton dé bonus, tu as un dé dans ta caractéristique, enfin dans ton petit pool bonus, voilà, donc tu as lancé pour un personnage de niveau 1 tes 14 dés, voilà, c'est bon, tu n'auras plus de dé à lancer de la partie.
Alors, ouais. Donc tu gardes tes dés sous forme de dés, donc il faut avoir plein de dés.
Alors en fait, je recommande à chaque joueur d'Abstract Dungeon de s'acheter, vous savez, les petits packs de 36 dés, c'est nickel, moi j'ai le mien. Effectivement, on les pose sur la fiche dans les grandes, mes autres amis chroniqueurs, vous avez la fiche sous les yeux, donc vous voyez l'espèce de système de gros cercle dans lequel on peut poser son pool de dés.
Et d'ailleurs, il y a un truc que je regardais à la fiche, il y a un truc qui est cool, c'est que autour de donc chaque caractéristique est matérialisée à la fois par son nom et un grand cercle, et c'est dans ce grand cercle qu'on dispose les dés, et tout autour de ce cercle sont indiqués des verbes qui correspondent aux caractéristiques en question.
Tout
ça
à fait.
Ça permet de pas se paumer.
Tout à fait. Et ça permet vraiment de préciser les choses. Moi, j'aime beaucoup ce petit conseil, en plus j'aime bien.
Je trouve ça pas bête du tout en fait.
J'aime bien l'idée aussi.
Elle est assez élégante cette fiche. Ouais. Moi j'aime bien. À la limite, j'aurais augmenté un petit peu la taille des réserves de trèfle, c'est un peu léger, mais bon, c'est pas grave. Donc toujours est-il que voilà.
Qu'on a lancé tous nos dés, nos 14 dés.
Bah, alors déjà, en plus, ce qui est amusant, c'est que tu sais en début de partie, donc si ton perso est en pleine forme parce que t'as fait un tirage de malade mental, ou si ton perso a un petit rhume et globalement va être un petit peu en dessous sur la partie. Maintenant, après, statistiquement, sur 14 des 6, en théorie, t'auras quand même.
J'ai une question. Tu lances tes 14 dés en même temps et après tu répartis comme tu veux?
Non.
Tu lances caract par caract, quoi.
Sinon tu vas te retrouver systématiquement à foutre tout et à trop spécialisé. Donc tu fais tes 4 de toughness, tes 3 de spirit si t'as mis 3 spirit, etc., etc. Donc là, la partie est lancée et à partir de ce moment, en fait. Alors, je vais revenir sur le petit pool bonus qui est quand même un peu important, la petite réserve. En fait, cette petite réserve en fait, va pouvoir à tout moment. Si tu te retrouves avec un de tes pools qui est vide, tu pourras rediriger ce qu'il y a dans ta réserve dans ton dé. Donc c'est vraiment, comme son nom l'indique, ta réserve, c'est ton dernier rempart. Quand il te manque un peu, tu peux transférer donc, ce dé où tu veux sur ta fiche.
C'est-à-dire que par exemple, tu as utilisé tes dés. Bon, de toute façon, on va voir comment on utilise les dés. Mais enfin, l'idée, c'est de, si tu n'as plus de dés dans une des caractères, tu peux utiliser celui de bonus.
Tu peux transférer celui de bonus vers ton cercle de spirit ou ton cercle d'intellect si celui-ci est vide, si tu n'as plus de dés dans ce pool-là. Voilà, donc à partir de là, les affaires commencent, on est dans une auberge, patati patata, et évidemment on va se retrouver face à 3 gobelins assoiffés de sang. Comment ça marche? Alors que ce soit pour 3 gobelins assoiffés de sang ou pour retrouver son chemin dans la forêt, ça va être sensiblement le même principe. Le maître de jeu en face va vous proposer un obstacle, donc 3 gobelins, le gobelin étant un monstre à 1 dé, il y aura 3 dés. Le MJ va lancer ses 3 dés. Là, le hasard, en fait, est uniquement du côté du MJ. Et donc, on va obtenir un gobelin complètement asthmatique, puisqu'on va obtenir un 1 sur son dé, un gobelin complètement à la testostérone, qui aura un 5 sur son dé, et un moyen à 3 sur son dé. Et les joueurs vont se retrouver avec ces 3 gobelins face à eux, et il va falloir s'en débarrasser. Et comment on s'en débarrasse? En fait, on va dépenser ces dés pour éliminer les dés du MJ.
Tu veux dire que tu vas utiliser les dés de tes caractéristiques pour éliminer les dés du MJ.
Un exemple tout simple, le barbare va puiser dans sa toughness, on va dire on avait dit qu'il avait un 2, 3, 4, 5, bah, ça tombe bien, il va claquer son 5 en toughness pour, d'un geste élégant de sa vorpal, enfin de son épée à deux mains, décapiter le plus gros des gobelins. Donc le joueur dépense son 5 pour dégommer le 5
pour annuler le 5 de l'autre. Okay.
Voilà. Donc là, le MJ, d'un geste symbolique, retire son 5 puisque le gobelin a été décapité, massacré, taillé, moissonné, lié, tout ça. Donc on peut ensuite, le principe, c'est qu'en théorie, on ne dépense donc qu'un dé par tour par joueur, sauf que on peut en fait dépenser un dé par, on va dire, catégorie de réserve de dés. Donc on peut pas dépenser à la fois un dé, 2 dés de caractères différents, donc un dé de toughness et un dé de spirit, mais par contre, on peut dépenser pendant le même tour un dé de toughness et un dé de trait. Donc en admettant que notre barbare en question ait décidé vraiment d'en finir avec la menace goblin, il va avoir dépensé son 5 en toughness pour décapiter le leader, mais il aura aussi dépensé, mettons, un magnifique 6 qu'il avait eu sur un de ses 3 traits freeform, on va dire son trait cri de guerre du clan du dragon. Et donc il va dépenser son 6, d'un seul coup éliminer donc, ce qui nous restait, à savoir l'asthmatique à 1 dé et le gobelin un petit peu en forme qui était à 3 dé, donc ça fait 4, il dépense même un peu plus, il n'a même pas besoin de dépenser un 6, il pourrait dépenser autre chose. Mais bref, les gobelins sont terrifiés par le cri de guerre du grand du dragon et s'enfuient en laissant le cadavre de leur leader dans la boue.
Juste une question, est-ce qu'avec 1 dé, tu peux, si tu as un gros dé à 5 par exemple, tu peux éliminer un 3 et un 2 du MJ?
Bah, tout à fait, le barbare aurait pu utiliser son 5 pour décapiter le gobelin malade et le gobelin, on va dire, normal. Il aurait pu tout à fait dépenser. Et en fait, il faut que la somme des dés que tu dépenses soit égale ou supérieure aux dés que tu veux virer Les dés du MJ que tu veux virer. D'accord. Alors ça marche pour le combat, c'est très simple. Ça marche aussi donc pour les épreuves. Exemple, on va dire le cas Aragorn typique, nos deux PNJ boulets Hobbit ont été enlevés par un gang d'orques, il faut arriver à pister les orques. Le MJ estime que c'est une difficulté, parce que bon, on a beau dire, mais c'est pas simple, il faut les retrouver. C'est une difficulté à 4D, ça va être à l'équipe de PJ de justifier, enfin de battre ces 4D, et c'est là où tout le côté vraiment hyper sympa de Abstract Dungeon prend toute sa mesure, c'est qu'il va falloir battre ces 4D en justifiant de l'emploi de telle ou telle caractéristique. Parce que par exemple, évidemment, la situation de base, on va se dire, bon bah voilà, pister, c'est typiquement un jet de spirit, on va claquer un petit peu de spirit pour battre les 4D du MJ pour pister et retrouver nos amis hobbits. Mais le barbare qui a un dé en spirit, lui, il est absolument pas prêt à claquer son spirit. Donc là, le joueur va se creuser la cervelle pour essayer de trouver quelque chose, une idée qui lui permette d'utiliser la réserve d'un autre, d'une autre de ses caracs ou d'un de ses traits pour participer à l'effort de guerre. Donc par exemple, en admettant que notre barbare est 3D en agility parce qu'il a vraiment tout mis dans le physique, hein, 4 en toughness, 3 en agilité comme un bon barbare, le joueur peut inventer qu'il utilise un de ses dés d'agilité pour grimper sur les arbres, pour voir de plus loin, etc., etc. Et ce sera toujours au joueur d'inventer des choses pour participer à l'effort collectif. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est l'aspect clé du jeu, à savoir que ça libère complètement l'imagination des joueurs. Moi, je sais qu'en tant que MJ, j'avais tendance sur des jeux de donjons classiques à dire à mes joueurs, bon bah vas-y, fais ton action de combat. Mon joueur lançait son dé, décrivait vaguement, genre bah, je lui mets un coup d'épée dans la poire. Et donc moi, en tant que MJ, je me sentais obligé d'en faire un truc. Oui, alors tu fais des moulinets, des machins, une roulade sur le côté, tu feintes bidule.
Ouais, là, c'est l'inverse.
Là, c'est l'inverse. C'est le joueur qui doit le faire pour justifier l'usage de tel ou tel trait, et tout de suite, ça a une gueule folle.
Moi, je trouve ça très élégant, la manière dont c'est fait, parce que l'idée elle-même, elle est pas du tout originale. Le fait d'utiliser un trait plutôt qu'un autre, moi, j'ai toujours tendance à l'inverse, de dire, bah, quelle compétence tu veux utiliser. Alors, j'avais fait des systèmes un peu comme ça, où l'idée, c'était ça, c'était qu'est-ce que tu veux utiliser comme caractéristique? Ok, bah justifie-le moi. Et ça, tu l'as dans d'autres trucs, quoi. Par contre, c'est fait de manière assez élégante. C'est ça que j'ai trouvé à la lecture du livre. C'est vraiment efficace, en fait.
Et ce système, en fait, permet d'unifier toutes les mécaniques du jeu, parce qu'évidemment, on se demande, mais comment le magicien Mordak le Noir va-t-il, lui, se débarrasser des gobelins? Eh bien, c'est bien simple, exactement de la même manière, sauf que lui, il va puiser dans sa réserve d'intellect, pour poutrer du gob. Et donc le joueur va claquer un dé de son intellect en expliquant qu'il invoque la poigne ignée de Morzébul et qu'il va griller
vivant. Je kiffe ton univers de fantasy.
Voilà, et donc griller vivant un gob et donc justifiera de cette manière la dépense de l'intellect dans une situation de combat. Et tout fonctionne comme ça. Je termine juste sur cette mécanique de dé. Donc on se rend compte, à partir du moment où on joue un peu, qu'effectivement, face à des obstacles un petit peu violents, le but du jeu, c'est d'arriver à justifier sur une même action la dépense et d'un dé de carac et d'un dé de trait. Et c'est là que la progression potentielle arrive, puisque à partir du moment où les persos vont commencer à prendre du niveau, leurs réserves vont augmenter. Donc, mais par contre, ils ne pourront toujours pas en dépenser plus pendant le même tour, donc ils sont capables de survivre à plus de choses. Comme tu auras plus de dés, tu auras potentiellement plus de gros résultats, etc., etc. Mais surtout, tu vas commencer à pouvoir accumuler des objets magiques. Or, l'objet magique, c'est la troisième possibilité, la troisième réserve à côté. Et donc avoir un objet magique dans une situation donnée va te permettre, si tu arrives à tout cumuler, carac plus trait plus objet magique sur une situation, de dépenser 3D en un même tour. Et là, ça commence à poutrer, à envoyer du...
Si par exemple j'ai une épée tueuse de gobelins, on leur en veut, les gobelins.
On en veut, mais on les aime pas. Ils sont absolument détestables.
Donc on a une épée tueuse de gobelins. L'épée, elle a elle-même une valeur, c'est ça? Elle va avoir par exemple une réserve de 2D ou
par
des choses
exemple,
comme ça.
Par exemple, oui, tout à fait.
Et donc je vais pouvoir l'utiliser deux fois dans la partie contre des gobelins.
Voilà, et ce qui est plus intéressant, c'est que ça, à la limite, c'est que tu vas pouvoir, pendant le même tour,
balancer plein de
utiliser
tours.
Ta toughness, ton cri de guerre du clan du dragon, et donc 3D sur un même tour. Alors, et donc ça va permettre d'évacuer de la menace beaucoup plus rapidement.
Voilà, parce que le problème, c'est que si tu n'évacues pas la menace en un tour, qu'est-ce qui se passe?
Et bien là, la menace riposte. Parce que les joueurs ont toujours l'initiative. Ce sont tous les joueurs qui commencent par dépenser leurs dés pour essayer de de balayer l'opposition. Mais si l'opposition est toujours debout au moment où les joueurs ont tous agi, à ce moment-là, l'opposition, elle aussi, elle tape. Alors, quand c'est un gob, ce sera pas très... très chaud à gérer, puisqu'en gros, le gob, il va faire perdre un point, donc on va diminuer la valeur d'un des dés, soit en toughness, soit en agility. Toughness, ça veut dire qu'il t'a planté la cuisse. Agility, c'est-à-dire que t'as esquivé qu'il te plante la cuisse, mais c'est un petit peu facile et ça t'a un petit peu fatigué. Donc voilà, c'est un point. Ton 5 va devenir un 4. C'est pas insupportable. Quand c'est un gros dragon, un truc qui peut faire perdre 3 points en toughness et en agility à 3 membres différents du groupe, parce que c'est son souffle, et donc entre ceux qui vont vouloir esquiver et ceux qui vont se faire cramer, là, c'est tout de suite beaucoup plus problématique. Donc on a intérêt à le descendre vite, le gros dragon.
Alors que les gobelins, on peut s'amuser avec.
Mais alors, du coup, arrivé à la fin du scénario, tu peux arriver face à un obstacle où tu sais que tu ne peux pas le battre, en fait.
Eh bien, c'est le drame. C'est-à-dire qu'en fait, Abstract Dungeon a réduit Donjon à sa plus simple, définition, la gestion de ressources. C'est uniquement un jeu de gestion de ressources. Tu vas essayer au maximum d'optimiser la dépense de TD, éviter, par exemple, pour revenir sur l'exemple que j'ai donné à Yannick, de dépenser un 6 quand tu pourrais dépenser un 4, parce que chaque point compte, pour arriver, tout le suspense est là, le plus frais possible face à l'obstacle final. Et si tu n'y arrives pas, c'est là où il y a la petite subtilité, tu peux demander à ton maître de jeu ce qu'on appelle un refresh, donc un repos. Donc les joueurs disent « pouce, on n'en peut plus, on n'a plus de dés, on est complètement claqué. » On fait un refresh, le MJ dit « banco, vous faites un refresh ». Donc un refresh, ça veut dire que les joueurs repartent à zéro, virent tout ce qui leur restait de dés, et reconstituent leur pool, mais deux choses, ils perdent de l'XP, donc les personnages vont progresser moins vite, parce qu'en gros, le scénario est considéré comme un semi-échec, et surtout, OMJ de profiter de ce repos, parce que ce repos, il existe dans le vrai monde, les joueurs vont vraiment laisser du temps aux magiciens maléfiques pour lever sa horde de morts-vivants et envahir la ville de l'Empire. En gros, la situation se sera considérablement détériorée pendant le refresh des joueurs. Donc il y a une double responsabilité là, et donc le joueur optimisateur qui ne veut pas perdre d'XP, ou le joueur hyper roleplay qui veut absolument sauver la princesse, etc., aucun des deux n'a intérêt à faire un refresh. Refresh, c'est vraiment un constat d'échec, c'est on est lessivé et il nous reste le dragon, on prend un temps de repos.
Alors pour l'instant, on a eu l'idée de l'optimisation du côté joueur, et est-ce que du côté MJ, le MJ est limité dans les obstacles qu'il va envoyer à la gueule des PJ?
À partir du moment où tout se réduit finalement à un pool de dés, non, t'es pas limité du tout, c'est même extrêmement reposant en tant que MJ de se dire, voilà, un monstre, globalement, t'as que deux questions à te poser pour faire ton monstre. À combien de dés est-ce que c'est un monstre? Donc voilà, ton gobelin, tu vas l'envoyer à 1 dé, ton chef orc à 2 dés, ton gros troll berserker à 3 dés. Et est-ce qu'éventuellement, tu peux rajouter une petite subtilité, c'est ce qu'on appelle une résistance ou une vulnérabilité. Résistance, ça veut dire, l'exemple le plus facile étant évidemment le vampire, par exemple. Le vampire, il a une résistance aux dommages en toughness. C'est-à-dire que chaque dé que tu dépenses en toughness pour lui mettre sur la tronche avec une hache sera diminué d'un point, parce qu'en gros un vampire ça se tue pas à l'arme, vaut mieux y aller à la magie. Il y a à l'inverse une vulnérabilité, par exemple un élémentaire de glace aura une vulnérabilité face au feu. Si t'as un trait lié au feu, le dé de dégâts que tu vas dépenser sera augmenté d'un. Donc en gros, pour un monstre, en tant que MJ, ton seul job c'est de te dire combien de dés est-ce qu'il y a une résistance et ou une vulnérabilité. Pour tout le reste, et non, et au contraire, et ça donne même un côté extrêmement freeform. Une enquête urbaine dans une grande ville, toi t'as fait un scénar, tu l'as vaguement improvisé, parce que le but de la partie c'est quand même de jouer 2h30 en buvant des bières et en mangeant des chips. Donc tu sais pas exactement de quoi tout ça est fait, t'as fait un bon pitch de départ, les joueurs sont lancés, tu les laisses faire leur enquête, tu leur proposes un défi à 6 dés dans la ville pour faire leur enquête, voilà, ils vont devoir justifier donc de la dépense de leur dé, qu'est-ce que vous faites les garçons, et éventuellement tu leur demandes, alors qu'est-ce que vous trouvez? Là tu peux partir sur un truc de construction un peu plus partagée de l'histoire, ça dépend si t'es un MJ dirigiste ou pas.
Ça il en retombe sur du machin world.
Non mais c'est une...
je trouve un indice, j'ai réussi mon jet, je trouve un indice, qu'est-ce que c'est maître de jeu? Bah je sais pas, qu'est-ce que c'est à ton avis?
Bah oui.
Bah c'est un truc qui m'emmène là, et bah écoute on va faire ça.
Ouais. Mais après c'est vraiment, ça dépend si t'es un MJ à l'ancienne et que t'aimes bien préparer les trucs, ou si toi aussi t'es venu juste
pour... t'es un branleur comme les autres.
Voilà, d'accord. T'es venu pour t'éclater pendant 2h30 en buvant des bières sous le fallacieux prétexte de faire un jeu de rôle, et t'as quasi rien préparé, et donc voilà. Tu lances ton truc et tu laisses éventuellement tu rebondis.
Moi, c'est
un
goudron
et
les plumes pour les maîtres de jeu comme ça.
Oui, je m'en doutais.
Est-ce que si le MJ n'est... Ouais, non, ma question c'est aussi de savoir, le MJ, il n'est pas limité dans le nombre de dés qu'il va utiliser pendant la partie.
Alors, en théorie, il y a une formule de calcul du pool global de dés du MJ par aventure en fonction du niveau des joueurs. Je t'avouerai qu'à titre personnel, je ne m'en suis pas encore servi, je ne compte pas m'en servir. J'utilise la célèbre méthode au pif, ou au blair, selon les écoles, qui consiste à me demander est-ce que la scène a de la gueule, qu'est-ce que je leur envoie, bah, qui se démerde.
Ouais, mais c'est, ça c'est facile pour des maîtres de jeu qui savent à l'avance en gros ce qu'ils vont mettre comme opposition. Bon, mes joueurs à 3, ils ont 40 dés, il me faut à peu près 40 dés, et voilà quoi. Ça c'est facile pour des maîtres de jeu pardon qui ont un peu de bouteille, mais pour des débutants c'est bien de montrer
d'avoir
de dire,
le guide oui,
voilà
oui,
il faut un peu ça.
Moi je trouve que ça change tout. Alors j'ai rien contre la méthode au pif que j'ai aussi beaucoup appliquée et que j'applique encore pas mal, mais le fait d'avoir une limite dans le nombre de dés d'opposition qu'on va pouvoir balancer à la gueule des joueurs, ça permet d'être vraiment dans une logique où on retient pas ses coups, où on est vraiment opposé aux joueurs et où on joue contre eux quoi. Ça c'est ouais, pour moi une optique sympathique aussi.
Moi j'aime pas ça du tout parce que précisément quand j'ai fait mes classes de MJ à l'époque où j'étais lycéen, je jouais comme ça et en fait ça m'a pourri mes parties. Donc maintenant je suis plus du tout dans l'optique contre mes joueurs, je suis vraiment dans l'optique de raconter les histoires où tout le monde se marre. Et je t'avoue que voilà, sur un jeu dont le pitch de départ c'est vous allez jouer en 2h30 en vous marrant comme des baleines, j'ai pas envie de passer 25 minutes avant à calculer mon pool de dés, bon, comment je l'ai réparti, etc.
Non, mais sans le calculer, de se dire bah voilà, j'ai prévu 4 scènes, il y a 3 obstacles par scène, il y a tant de dés parce que ça correspond à peu près à leur valeur, tu vois, ça évite de... Le problème, c'est si tu le fais un peu à la volée, moi j'ai peur que le maître de jeu il s'ajuste au dernier moment, même si on sait très bien que tout le monde le fait. Mais j'aime pas cette idée de dire bah voilà, ils en ont encore sous le sabot parce qu'ils ont assuré comme des bêtes, et ben j'en ai rien à foutre, je vais les punir en rajoutant des dés. Parce que comme ça, le combat il sera plus épique. Tu vois, moi je trouve que ça casse un peu le délire des joueurs qui justement ont assuré jusqu'à maintenant.
Ah, je comprends tout à fait ta remarque est parfaitement justifiée. Et. On a les outils pour ça. Donc le jeu fournit les outils. Voilà, moi c'est juste que je calculais déjà pas le FP des rencontres en DD3. C'est pas pour le faire en Abstract Dungeon. Voilà, c'est aussi bête que
la
ça.
La formule est peut-être plus simple dans Abstract Dungeon clair. Que dans DD3.
Oui,
d'accord. C'est vrai. Donc pour l'instant, le jeu, t'as encore des trucs à rajouter ou c'est bon?
S'il n'y a pas de questions, non. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Voilà, le jeu est encore en bêta.
Moi, mon avis, donc j'ai lu le jeu dans une version qui doit être un tout petit peu antérieure à la tienne, qui doit être 2 semaines, tu vois. J'ai beaucoup aimé l'élégance, j'ai beaucoup aimé le fait que tout se résout de la même manière, et que moi j'ai toujours aimé les systèmes où tu pouvais décider d'utiliser une autre caractéristique parce que t'avais eu une bonne idée. Je trouve que c'est une récompense immédiate qui est très tangible là-dessus à partir du moment où le MJ est assez souple pour l'accepter. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Il y a un truc que j'ai moins aimé, c'est dans le bouquin, donc t'as toute cette partie là qui est assez courte, qui est sympa comme tout, et tu as parlé tout à l'heure d'un truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est les objets magiques. C'est un jeu, donc c'est du donjon, donc bon, bah, normalement, les joueurs trouvent des objets magiques. Il y a des potions, il me semble, il y a des trucs comme ça. Et à la lecture, il me semble qu'ils ont brisé toute l'élégance qu'ils avaient fait au début. C'est-à-dire qu'autant au début, si tu te sers pas des objets magiques, c'est vraiment stylé. Autant les objets magiques, ils rajoutent des conditions d'utilisation des dés, ils rajoutent des possibilités diverses qui ont pas vraiment de sens. Je sais pas si t'as eu le même
Alors j'ai eu le même honnêtement sentiment. J'ai eu le même ressenti que toi sur on va dire 80% de la liste d'objets magiques, qui pour moi cette liste ne se justifiait pas. Il y a quelques bonnes idées, j'aime bien l'idée par exemple que pour les potions parchemin et autres trucs on va dire jetables, le dé en fait lui ne soit pas lancé, c'est-à-dire que tu ne saches pas, par exemple, t'as une potion d'invisibilité, tu vas vouloir justifier l'utilisation du trait, j'ai ma potion d'invisibilité. Là, le trait n'est pas prédéterminé, tu vas le lancer, donc tu sais pas exactement ce qu'elle a donné. J'aime bien ce petit côté aléatoire, là où tout est prévisible. Maintenant, effectivement, quand on t'explique que l'épée tueuse de mort-vivant, quand tu dépenses tes dés pour tuer un mort-vivant, ton dé devient obligatoirement un 6, sur le papier c'est sexy, mais en fait ça casse complètement la mécanique du jeu, et pour moi ça n'a strictement aucun intérêt.
Oui, c'est ça. C'est que ça rajoute une autre règle, là il n'y en a pas besoin. Alors
tout
à fait. Tu aurais simplement un dé, tu dis bah voilà, j'avais un 4 contre les morts-vivants à ce moment-là, bah, je pète tes deux squelettes à deux. C'est aussi facile, et en fait tu peux tout faire selon le même modèle, et je comprends pas qu'ils l'aient pas fait, tu vois.
Mais je pense qu'ils ont voulu donner à l'amateur de crunch un peu plus de matos. Maintenant effectivement ça me paraît pas justifié, notamment dans le sens où ça t'oblige à donner à ton objet magique une vraie identité, de le traiter comme un trait de plus. Par exemple, t'as ton épée est une tueuse de dragon, alors certes tu pourras t'en utiliser juste pour faire plus de dégâts parce que c'est un espèce de gros machin, mais comme c'est une tueuse de dragon, tu pourras éventuellement, on en avait déjà discuté comme exemple, justifier la dépense d'un dé de cette épée-là pour te protéger contre un souffle de dragon. Donc voilà, parce que c'est une tueuse de dragon. Point. T'as pas besoin de règles spécifiques pour
exactement,
ça.
Exactement, moi je trouve que c'est mieux. T'as pas besoin d'en rajouter. Une autre question, c'est, tu parlais des consommables type potions, scroll et tout ça. Est-ce que on n'est pas dans un cas où on, comment dire, où tu vas pouvoir acheter des dés de bonus avec ton argent. C'est-à-dire que dans le jeu, tu vas dépenser des pièces d'or pour acheter une potion de soin, par exemple, je dis n'importe quoi, une potion d'héroïsme ou un truc comme ça, qui va te donner un dé en plus. Mais si j'en achète 10, je vais avoir 10 dés en plus.
Oui, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, les sous sont gérés de façon complètement irréaliste et ludique. En fait, c'est les dés d'argent que tu as. Ouais. Donc en gros, tu vas
transformer un dé d'argent
en dé de potion, mais en fait, comme le MJ va te récompenser en dé, de toute manière, tout reste sous contrôle. Il y a pas
ouais,
de.
C'est vachement bien. Ok, d'accord. Ah, c'est voilà. Cool ça. Ouais. Oui, c'est-à-dire que tu peux pas acheter 20 000 potions parce que t'auras pas 20 000 dés quoi. Si t'as 10 dés en tout.
Mais ce qui est amusant, c'est que le joueur, le MJ va donc négocier ton contrat d'employé mercenaire en disant oui, alors le marchand Bulut se te propose une rémunération à base de 2 dés de trésor.
Waouh, voilà. 2 dés, c'est pas mal.
Voilà, d'accord. Donc ça c'est plutôt rigolo.
Ouais, mais j'aime bien l'idée, moi. C'est encore une fois, c'est voilà, ça reste élégant et en fait tu payes en dé de bonus pour le scénario d'après.
Voilà, c'est ça.
C'est rigolo.
Ouais. Non, c'est pas mal du tout. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que c'est bon? Donc toi, tu conseilles pour l'instant de se concentrer dessus un peu.
Je suis un fan inconditionnel et je suis très enthousiaste aussi pour le nouveau DD officiel. Mais pour moi, justement, entre ces deux-là, on a le plus gros DD et le plus petit DD, la vraie machine de guerre DD officiel et cette espèce de petit jeu de garage et tout. Et avec ces deux-là, on a pour moi, deux des meilleurs donjons jamais sortis. Voilà, je suis très enthousiaste.
Wow. Là-dessus.
Ouais, non, mais vraiment, vraiment, vraiment.
Ok, parfait. On va pouvoir enchaîner ensuite avec Steve qui vient nous parler de la mouvance des jeux de rôle freeform.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une expérience qu'on peut tous faire, on prend son rôliste et on leur demande à chacun quelle est leur définition du jeu de rôle. Et on le sait, on va pas obtenir une définition unique, mais 100 définitions différentes.
Si alors, t'as 100 rôlistes, oui.
Bah, tout à
fait. Quoique, avec un rôliste, c'est possible aussi.
Oui, c'est vrai. Tu vas obtenir plus de 100 définitions différentes, en tout cas. Mais bon, c'est problématique, mais heureusement, il y a quand même des quasi-consensus dans la communauté rôliste pour savoir quels sont les constituants qui font notre loisir préféré. Et par exemple, sur ces 100 rôlistes, il y en a bien 99 qui seront d'accord pour dire que le jeu de rôle, ça se passe autour d'une table, ça se passe via la conversation et par opposition aux diverses formes du jeu de rôle grandeur nature.
Du GN, du murder, soirée enquête, tout ça.
Ouais, tout à fait. Oui, donc aujourd'hui, je vais descendre dans l'underground et je vais m'intéresser justement aux pratiques de ce 100e rôliste, donc ce rôliste qui n'est pas d'accord avec la définition du jeu de rôle qui se déroulerait sur une table et qui n'est pas prêt à faire une séparation claire entre le jeu de rôle sur table et le jeu de rôle grandeur nature. Donc ce rôliste,
on dirait un peu quand même.
Il a un appert noir et il a 16 ans.
Alors pas forcément justement, il a plutôt une quarantaine d'années et il fait partie de la mouvance ou de la scène freeform, ou en tout cas il pratique des jeux issus de cette mouvance. Et donc cette mouvance qui cherche à élargir un petit peu le champ du jeu de rôle en le faisant tendre vers des formes de jeu de rôle grandeur nature, voire de tables d'improvisation. Alors,
d'accord.
Alors j'utilise le terme freeform qui aujourd'hui est principalement utilisé par des rôlistes américains qui se réunissent sous la bannière de l'American Freeform, mais c'est les Américains, ils sont très très contents de dire c'est vraiment très particulier, c'est américain.
C'est américain.
Mais en fait, ils se sont tous inspirés de mouvements norvégiens, puisque à la base
oui, c'est ce que j'allais dire. Oui.
Voilà, ils l'assument heureusement. Hein, donc c'était à la base le mouvement JEP. Ou Jepform, ou encore Semi-Lajv. Alors là, je parle très mal le norvégien, mais heureusement, je suis presque sûr qu'on n'a pas de spécialiste
ici. Il y a des ronds quelque part sur des lettres de Lajv.
Non, dans Lajv, il n'y a pas de nom, mais quand tu regardes les auteurs de Semi-Lajv norvégien, il y a beaucoup de hauts barrés.
Ok. Alors, donc, qu'est-ce que c'est ?
Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un type de jeu qui mélange donc le jeu de rôle et le jeu de rôle en nature. Et je vais donner plusieurs exemples, mais avant, je vais essayer de répondre à la question pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire un mix entre ces deux formes de jeu de rôle, a priori, qui ont des points communs, mais qui sont a priori assez différentes. Donc, avant ça, quelles sont les différences principales entre le jeu de rôle sur table classique et le jeu de rôle grandeur nature ? Alors, la grosse différence, c'est que dans le jeu de rôle sur table, on ne se préoccupe pas de l'espace où a lieu la partie. Donc, il y a quelques exceptions. Donc, de temps en temps, il y a les MJ, ils aiment bien se mettre dans un coin de table parce que comme ça, ils sont tout seuls face à leur joueur derrière un écran de jeu. Mais dans les faits, c'est quand même assez marginal. Et ce qui explique que dans la plupart des cas, on est capable de jouer sur Rollisteam de la même façon qu'on serait capable de jouer autour d'une table au même jeu. Donc c'est bien finalement l'idée que l'espace ne compte pas tellement. Et en réalité, l'espace qui compte dans le jeu de rôle sur table, c'est un espace imaginaire, c'est l'espace commun partagé par la conversation. C'est en même temps le fait de ne pas se préoccuper de l'espace de la partie, c'est l'une des plus grandes qualités du jeu de rôle sur table, puisque ça lui permet d'être presque sans limite. À partir du moment où on peut décrire quelque chose de telle façon que cette chose soit comprise par tous les joueurs autour de la table, finalement on peut le jouer. Donc le jeu de rôle sur table ne limite pas dans les types d'univers. On peut se permettre de faire des scènes d'action particulièrement épiques avec beaucoup d'effets spéciaux, mais tout passe en fait. Enfin, ça coûte pas plus cher que de se contenter d'une scène intimiste.
Rappelez-vous que les effets spéciaux dans les jeux de rôle, c'est gratuit, donc
c'est ça.
Faut pas hésiter à en abuser.
Avec des dinosaures et tout, vas-y.
Voilà, tu peux rajouter un dinosaure, et si tu veux, le dinosaure, il peut te balancer une bombe nucléaire dans sa salive et tout explose, il y a une autre planète. Ça, tu peux faire ça dans le jeu de rôle sur table. Mais à l'inverse, le jeu de rôle Grandeur Nature se préoccupe de l'espace de la partie, puisque l'espace dans lequel les joueurs jouent, il représente l'espace dans lequel les personnages sont. Le jeu de rôle Grandeur Nature est très contraint par des logiques d'immersion. Donc, alors on caricature souvent les gens qui jouent au jeu de rôle Grandeur Nature en disant qu'ils vont se déguiser en elfe et ils vont dormir ils vont courir dans les bois avec leur épée en latex et ils vont dormir à la Belle Étoile et ils peuvent se faire réveiller par les joueurs orques. Donc c'est quand même un loisir un petit peu particulier. En fait, quand on regarde bien il y a d'autres contraintes dans le jeu de rôle Grandeur Nature que l'obligation de se déguiser. Par exemple, il y a la contrainte temporelle. Alors ça, je m'en suis rendu compte en relisant Mind Eyes Theater, qui est l'adaptation Grandeur Nature de Vampire Mascarade. Et dans ce jeu, la première règle qu'il pose, et qui est une règle très importante, c'est l'unité de temps. À savoir, quand il y a une minute de temps qui se passe dans la partie, il y a une minute de temps qui se passe dans la fiction. Alors ça, c'est vraiment une contrainte très forte, puisque ça revient finalement à toujours jouer à 24 heures chrono le RPG, et ça limite considérablement l'ampleur des parties. Finalement, il y a tout un tas de limites où, dans le jeu de rôle Grandeur Nature, on va éviter tout ce qui est aspect méta. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque, par exemple, toujours dans le jeu de rôle, dans le GN Vampire, on peut se battre, mais c'est vraiment d'une façon très fruste, puisqu'on va jouer à pure feuille-ciseaux. Ou encore, on peut, si on fait un L avec les doigts, ça veut dire que les joueurs sont
on
censés...
On est un loser.
Ça veut dire qu'on est un loser, exactement. Non, même pas. Ça veut dire qu'on est en train de parler dans... Alors, c'est peut-être
c'est
une version française.
C'est qu'on est hors jeu. On m'a déjà,
non,
on
c'est,
m'a déjà raconté
je crois
ça.
Que c'est pas hors jeu. C'est qu'on est en train de parler dans une langue étrangère. Donc, les joueurs qui passent, ils sont censés faire comme s'ils ne comprenaient pas ce qu'on dit.
Non.
C'est ça. Enfin, il y a aussi un signe pour montrer qu'on est invisible. Donc là, les gens font « Mais où es-tu passé ? Tu as les doigts levés ? Tu n'es pas là ?»
Alors tout ça, c'est absolument passionnant. Et ça donne vraiment envie. Et donc, quel est le rapport en fait entre le jeu de rôle et le GN alors ?
Alors là, on a les différences et donc on a vu les limites du GN. Et je vais donner un exemple de jeu qui cherche à mixer les deux genres. Donc je vais commencer par parler de The Climb, qui est le jeu de Jason Morningstar. Donc c'est l'auteur de Fiasco. Mm-hmm. Et
comment on dit ? Le Climb ?
The Climb, l'ascension.
Ah, le mec qui monte. D'accord.
Ouais, en fait, c'est...
Le mec qui monte.
En fait...
L'onglet, vu par Yannick.
En fait, c'est les mecs qui montent et les mecs qui montent, c'est les six PJ. Donc c'est un jeu qui joue à 6 joueurs, qui ne nécessite pas de MJ, et on y incarne 6 alpinistes qui ont entrepris l'ascension, alors là comme d'habitude je fais des langues étrangères compliquées, l'ascension du plus haut sommet jamais exploré par l'homme, qui est un sommet qui se trouve dans l'Himalaya, et qui s'appelle le Gwengnam Puensum. Donc c'est un sommet, donc le plus haut sommet jamais exploré, et que les autorités bhoutanaises, enfin dont les autorités bhoutanaises interdisent l'ascension. Donc dans ce jeu, on va jouer ce groupe de six personnages. Donc on a chacun une fiche avec des secrets qui correspondent à notre personnage. Et c'est un jeu qui ne se joue pas autour d'une table, mais qui se joue dans un espace un peu plus grand où il faut avoir installé 3 tentes. Donc l'idéal, c'est d'installer 3 tentes Quechua dans votre salon. Et on installe ces 3...
Ça ne nécessite pas d'avoir une falaise de 30 mètres.
Non, alors on verra que l'idée...
Non, mais faut de la place pour mettre 3 tentes Quechua, quoi.
Faut quand même avoir de la place. Mettre 3 tentes Quechua, c'est pas très grand. Enfin, dans le salon de Cobal, on pourrait installer 3 tentes Quechua.
Cobal, c'est un bourgeois.
Mais donc, on a installé ces 3 tentes et en fait, on va aussi installer une piste audio qui va faire des bruits de la montagne. Donc, on a le vent, on a les 3 tentes. Et l'autre chose dont on a besoin, qui est un élément plutôt venu du jeu de rôle Grandeur Nature, c'est qu'on a besoin d'un talkie-walkie pour une des phases du jeu. Alors...
Oui, Roger, talkie-walkie,
tout à fait. Une cuillère.
Alors non, on n'a pas besoin de cuillère et on n'a même pas besoin de s'habiller comme des alpinistes. Donc nous, on y a joué avec des amis, c'était dans l'un des week-ends les plus chauds du printemps. Donc on était bien contents de venir en petite chemisette. Donc on avait nos tentes, mais on n'avait pas les sacs à dos et on n'avait pas tout le matos. Enfin voilà, on n'était pas comme le jeu de rôle, le rôliste Grandeur Nature qui court dans les bois nus, déguisé.
D'accord, donc l'idée c'est d'apporter quelques éléments. Pour on va dire se mettre dans l'ambiance, oui. Voilà, un peu plus profondément.
Alors on verra que c'est, alors j'expliquerai que pour moi c'est un peu plus que de se mettre dans l'ambiance, puisque ça impacte vraiment sur le gameplay et sur la façon dont on va jouer le jeu. Donc dans la première partie il y a très peu de règles, mais on est dans un camp qui est à 6 900 mètres et on doit décider, en fait le chef d'expédition et le médecin d'expédition doivent décider de quels seront les trois alpinistes qui pourront monter au sommet, donc à plus de 7000 mètres d'altitude. Et évidemment, tous les joueurs ont envie, enfin, tous les personnages ont envie, ont des raisons pour que leur personnage monte, enfin, en haut du sommet. Donc, dans cette première partie, qui dure à peu près une heure, on va devoir négocier avec les autres joueurs pour savoir qui pourra aller au sommet. Et donc, dans cette partie, il y a plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes. C'est que on joue dans les tentes et on est réparti entre les tentes, mais on peut évidemment bouger entre les tentes. Alors, dans la deuxième partie, alors là, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, puisque il y a des éléments de règles secrets dans le jeu qu'on ne découvre qu'à la fin de la première partie, puisque les deux équipes de joueurs se séparent. Donc, il y a l'équipe qui va monter au sommet et l'autre équipe, et elle communique uniquement par talkie-walkie. Et en fait, l'équipe qui est en train de monter, elle a des règles précises pour savoir comment est-ce qu'elle va, elle va raconter son histoire, qui sont là des règles beaucoup plus méta, qui ressembleraient plus à du jeu de rôle, à la fiasco, enfin en tout cas des jeux de rôle à narration partagée. Oui, Jean-Baptiste.
Mais moi, enfin, la description que t'en fais, pour moi, pour le moment, tu me parles d'une soirée enquête. Hein.
Oui, alors tout à fait. Alors, mais encore une fois, c'est aussi le terme semi-lâche qui en fait veut dire semi-jeu de rôle grandeur nature. Alors. Je suis d'accord que les limites sont floues, mais pour moi ce qui est intéressant c'est de brouiller en fait les limites entre le jeu de rôle et le jeu de rôle dans la nature, puisque
c'est le fait de pouvoir le faire dans ton salon.
Ouais, c'est ça, parce que la soirée enquête sans doute la plus simple à organiser, c'est Dieu est mort, la soirée enquête INS, et c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué à organiser, ça nécessite pas mal de temps d'organisation.
Bah, parce que t'as 15 personnages ou 13.
Ouais, t'en as une dizaine uniquement. Ici t'as même pas besoin d'avoir d'organisateur, t'as uniquement tes 6 joueurs qui sont.
Il faut 3 temps de Quechua et un Takiwalki. Alors, tu m'excuseras.
Il faut 3 temps de Quechua et un Takiwalki. Et alors, tu me parlais de ces éléments en disant que c'était des éléments d'ambiance, mais pour moi, c'est des éléments qui. Et donc, c'est pour moi un des premiers intérêts de ce jeu, du genre freeform, c'est que les éléments, on se rend compte que ça crée des éléments, enfin, ça crée des particularités, c'est finalement comme des règles et des mécaniques de jeu. Donc, par exemple, le fait d'avoir des temps de Quechua, ça fait qu'on ne va jamais pouvoir avoir des discussions avec beaucoup de joueurs. Donc, déjà, quand on est deux dans une tente Quechua, c'est bien, on est confortable. Mais à partir du moment où il y a 3 personnes, déjà on est accroupi, on a un petit espace, ça commence à devenir plus compliqué à discuter. Et si on est 4 dans une tente Quechua, c'est vraiment une situation de panique, c'est vraiment une situation désagréable.
Pas forcément, mais...
oui.
Alors, est-ce qu'il est prévu des règles pour copuler avec l'un des joueurs?
Non, mais...
Alors non, mais on pourrait sans doute le faire, mais on considère qu'il fait trop froid pour le faire. Alors en fait...
Si, t'es obligé, c'est les règles qui le disent.
C'est ça, mais dans
c'est les règles secrètes. t'inquiète, c'est normal.
En fait, dans notre partie, on avait que 2 tentes Quechua et on avait installé un coin tente Quechua dans la cuisine d'un des joueurs, et on se rendait vraiment bien compte de la différence. Finalement, ce qui se passait, c'était beaucoup plus pépère à l'intérieur de la cuisine, où on prétendait, comme dans une partie de jeu de rôle, être dans une tente Quechua, mais où, en fait, on n'était pas. Autre élément qui est un élément d'ambiance, c'est le fait d'avoir le bruit de la montagne qui vrombit entre les tentes. C'est un élément d'ambiance, mais ça a aussi un effet vraiment intéressant sur le jeu, c'est qu'on ne peut pas entendre ce qui se passe dans l'autre tente Quechua. Donc là, encore une fois, c'est un élément...
Ça, c'est pas con, ça.
Donc voilà, c'est un élément d'ordre du gameplay. Et enfin, dernier élément, c'est les talkie-walkie. Et les talkie-walkie, c'est pas juste de l'ambiance, c'est que c'est très particulier de parler avec des talkie-walkie, puisque il ne peut y avoir qu'une personne qui parle à la fois. Et donc, parler à quelqu'un, ça veut dire lui couper la parole. Donc ça donne une façon de communiquer qui est très particulière. Donc le jeu propose de remplacer ça par des téléphones portables, mais moi je le déconseille.
Tu ne peux pas couper la parole, puisque si tu commences à émettre à ton tour, l'autre ne sait pas que tu as arrêté de l'écouter.
Oui, c'est vrai, effectivement, tu ne peux pas... je pense que ça doit dépendre du type de talkie-walkie, mais dans le nôtre, il fallait attendre que l'autre ait arrêté de parler pour pouvoir lui répondre. Donc c'est l'un des premiers avantages de à la fois de ce jeu et de l'idée de mixer le jeu de rôle grandeur nature avec le jeu de rôle sur table. Mais autre avantage qui a l'air d'être dans une logique d'immersion, c'est un jeu qui est en temps réel, qui dure 91 minutes puisque c'est minuté finalement par la piste son. Mais on n'a qu'une minute dans la partie où les conditions météorologiques nous permettent de continuer la tension. Donc ce qui fait que il y a un moment dans le jeu, il y a une minute de pure tension. Enfin, si on rate cette minute, on rate l'ascension et donc on termine la partie tout seul dans le camp, dans le premier camp à 6900 mètres. Personne n'a réussi à monter en haut de la montagne et c'est un peu l'ambiance déprime. Et donc c'est un truc qui est vraiment intéressant et
c'était pas très joyeux jusqu'à maintenant.
Oui, bah c'est après tu peux trouver joyeux de l'aventure et monter en haut du plus haut sommet non exploré. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez épique là-dedans. Mais
oui, c'est épique. Mais vu l'ambiance que tu décris, tu vois, c'est quand même la montagne.
Ah oui, c'est le vent qui souffle,
neige,
c'est un
vent,
peu triste.
Il fait froid. C'est
les alpinistes jaloux qui s'engueulent un petit peu pour savoir qui va avoir le droit de monter.
C'est pour ça que je dis que c'était pas
fun. Non, mais tu as raison. Et à la fin, en fait, juste avant la minute où on a la possibilité de continuer la montée, nous, on sait, il y a eu une scène d'engueulade et donc tous les personnages s'engueulaient et on a failli manquer en fait la minute qui nous permettait de mettre l'ascension. Donc là, le temps réel amène vraiment quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre de l'immersion. Alors, un autre élément qui est intéressant dans ce jeu et qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de jeux freeform, c'est la simplicité du jeu. Donc, plus qu'un jeu, hein, c'est un scénario. Donc, on rejoint finalement un petit peu les nano-jeux, enfin, ces jeux qui sont très, très courts et qui ne se préoccupent pas de questions de rejouabilité. Là, ici, on a des prêts tirés, on ne crée pas de personnages et on a une expérience de jeu qui est simple, qui dure moins de 2 heures, mais qui est particulièrement intense. Donc, c'est aussi un avantage pour l'écriture de ce type de jeu, c'est que on n'a pas à écrire 100 ou 200 pages de jeu avec des templates de monstres. Il est vraiment très simple d'écrire un jeu de rôle freeform, puisqu'on a que peu de pages. Enfin, The Climb doit faire une vingtaine de pages, tout au plus.
Je vois toujours, excuse-moi, hein, sans faire de mauvais esprit, je vois toujours pas le rapport avec le jeu de rôle.
Alors, ici, enfin, encore.
Pourquoi continuer à utiliser le terme de jeu de rôle quand c'est effectivement une soirée enquête, un murder, un scénario freeform, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de ce que nous, on appelle jeu de rôle.
Alors, pour moi, c'est un rapport, puisqu'on incarne des personnages, on joue un rôle, mais je suis d'accord, si on devait choisir un classement entre jeu de rôle grandeur nature et jeu de rôle sur table, le classement, on pourrait dire que pour The Climb, il n'est pas si flou que ça. Après, je vais donner quelques autres exemples où là, on aura des exemples où on est quand même vraiment plus proche de cette logique sur table. Uh-huh. Alors, d'ailleurs, un exemple, toujours pour rester dans la simplicité du jeu, il y a le jeu peut-être le plus simple qui existe, c'est un jeu qui s'appelle Stoke Birmingham 00. C'est un jeu qui est fait pour durer 15 minutes, et on incarne des supporters d'une équipe de foot qui se retrouvent après un match entre leur équipe. Donc, ils ont fait le déplacement pour aller à Birmingham, et pour voir le match. Le match a été tout pourri. Il y a eu 0-0. C'était vraiment d'un ennui mortel. Et l'idée, c'est que pendant 15 minutes, on doit jouer une discussion entre les quatre supporters. Et le jeu insiste sur le fait rester ennuyeux, quoi. Enfin, c'est voilà. Donc,
tu le payes combien ce jeu pour te faire chier pendant un quart d'heure?
Ce jeu-là, il se trouve gratuitement sur. Alors, il y a deux façons de l'avoir.
Ça, c'est fait par un Norvégien neurasthénique.
Alors là, c'est effectivement fait par un Norvégien qui a un O sur son nom. Il s'appelle Thomas. Et alors, il y a un O dans le. Il y a un trait dans le O. Morkrid.
Alors, attends, une fois qu'on s'est fait bien chier pendant 15 minutes, qu'est-ce qui se passe?
Alors, une fois qu'on a fait, c'est la fin de l'expérience, finalement. Là, c'est vraiment un jeu de rôle expérience. Ils appellent ça un jeu de rôle poème. Et alors, moi, je trouve ça, alors bon, vous pouvez rire, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans cette expérience. C'est que quand on est dans des jeux de fiction, on va chercher dans la conversation à faire des conversations concises qui vont aller directement à l'essentiel. En fait, quand on parle dans la réalité, on a beaucoup de moments où on va hésiter, où on va dire des choses pas très intéressantes, où on va dire il va y avoir des moments d'hésitation, et il y a un malaise très particulier qui peut naître de ces moments-là et qui n'apparaît jamais dans les parties de jeux de rôle. Donc pour moi, c'est l'avantage du Stork Birmingham 00.
Mais en fait, c'est un jeu pour faire un film de Buñuel, tu sais, où Je sais plus quel film c'était où à chaque fois qu'il y a un début d'intrigue, il est immédiatement arrêté pour donner naissance à quelque chose de nouveau qui commence. Et qui ne finit pas non plus.
Qui avorte aussi.
Et encore une fois, oui, je suis prêt à dire que c'est quelque chose de très particulier.
C'est un jeu, il s'appelle comment? Malaise. C'est ça.
Bah, attends, alors, Malaise, justement, c'est dans l'autre jeu dont je vais parler puisque. Alors. Ah, je vous avais dit, aujourd'hui, je creuse dans l'underground puisque. Donc, l'autre avantage pour moi des jeux freeform, c'est d'avoir une mise en scène de l'espace et d'avoir parfois un symbolisme qui existe dans le fait de jouer non pas autour juste d'une table, mais de prendre en compte l'espace où on est en train de jouer. Donc il y a un jeu que j'aime pas beaucoup qui s'appelle The Father, qui est un jeu d'un Norvégien, sans doute neurasthénique, mais en plus étudiant en psychologie. Donc déjà ça part mal. Et alors, donc pourquoi j'aime pas trop le jeu? Parce que je pense qu'il envisage réellement le jeu comme une thérapie et comme un jeu qui permet vraiment de penser ses rapports avec son père. Alors The Father, c'est un jeu vraiment déprimant où on incarne deux enfants et une femme d'un homme qui va se retrouver tué. Enfin, on sait que l'un d'eux va commettre soit un parricide, soit le meurtre de son époux. Et alors, donc, j'aime pas beaucoup le jeu, mais il y a une idée que je trouve très forte et que je pense pourrait être adaptée, enfin, pas forcément de cette façon, mais dans des jeux un petit peu plus mainstream et un petit peu plus joyeux. C'est l'idée que on y joue à trois joueurs, mais on met quatre tables, quatre chaises plutôt. Et la dernière chaise est vide. Oui, c'est horrible. Ah, mais il y a quelque chose
c'est
de vraiment.
C'est la chaise du mort.
C'est la chaise du mort. C'est la chaise du père qui n'est pas jouée par un joueur, mais.
Et on lui parle ou pas? On s'adresse à lui?
Oui, en fait, on va jouer des flashbacks. On a des flashbacks où c'est les autres joueurs qui vont l'incarner. En fait, on va raconter le rapport avec ce père et jusqu'à monter au parricide. Autre jeu vraiment joyeux, c'est Flower for Mara. Donc, c'est le premier jeu American Freeform de Seth Benezra. Et c'est un jeu sur le deuil, puisque on joue dans une famille.
C'est un festival, là.
Ah oui, mais c'est un festival, hein, mais il y aura un jeu fantastique après. Il y aura des jeux plus joyeux. Mais ici, Flower for Mara, donc là encore, je trouve ça vraiment très intéressant, même si c'est vraiment déprimant. On joue pendant une journée d'enterrement, donc on a une famille qui enterre Mara. Et ce qui est très intéressant, c'est que la pièce est séparée en deux. Il y a la partie du dîner et la partie du cimetière. Et dans la partie du cimetière, il y a un joueur qui va incarner le fantôme de Mara, qui ne peut jamais s'exprimer directement aux autres joueurs, et elle va rester pendant toute la partie dans le coin du cimetière. Donc là, moi je trouve...
Je ne joue pas ce rôle-là, ça se voit très clair.
Voilà, donc là, il y a vraiment un côté mise en scène. Alors, dans un autre truc, la plus horreur, un jeu qui s'appelle Previous Occupant.
Ah,
Occupant.
Est-ce que t'as pas un truc genre avec des poneys, des arcs-en-ciel?
Alors si, on peut passer au jeu où on joue à... Alors, il y a Sea Dracula et Vampire Discothèque. Donc là, c'est des jeux... Sea Dracula, c'est un jeu où on incarne des avocats, un jeu complètement barré et surréaliste, et où au lieu de faire des plaidoiries, ce qui compte, c'est que l'avocat, il aille sur le devant de la scène et qu'il entame une danse. Et c'est ça, en fait, que le juge va réellement juger. Et Vampire Discothèque, c'est un jeu où on va jouer ça se passe dans une discothèque, ça se joue de 6 à 12 joueurs, et c'est la lutte entre des chasseurs de vampires et des vampires qui ont des identités cachées dans une discothèque. Et là, donc, on va danser comme des fous pendant la partie, et on peut enclencher des pouvoirs si on est seul dans une pièce avec un autre joueur. Donc c'est un peu un jeu à la loup-garou, sauf que il y a de la musique de dance, et on peut s'amuser à danser pendant toute la partie.
Au loup-garou de Kerselieu, et c'est assez rigolo, c'est parce que dans les loup-garous de Kerselieu, les villageois peuvent rien faire, alors que là, dans ce jeu-là, ils peuvent baiser. C'est-à-dire que s'ils vont dans la pièce spéciale et qu'ils ne tombent pas face à un vampire, à un tueur, à un robot, enfin à plein de rôles voilà, qui risquent de les transformer, voilà, ils peuvent copuler entre eux et ça leur donne des points en fait pour la fin du jeu.
Tu parles de quoi?
Oui, tout à fait.
De ce jeu-là, de Vampire Machin?
De Vampire Discothèque. Ouais, certains des pouvoirs te permettent de cupuler avec la personne, mais évidemment, tu n'es pas obligé de mimer cette...
C'est détestable, c'est horrible.
Donc si je te suis bien, la seule alternative à la neurasthénie et au deuil, c'est de se trémousser sur de la disco, dans le jeu de rôle freeform.
En faisant semblant de copuler avec des gens que tu connais pas.
Non, tu peux aussi être...
avec des gens que tu connais.
Tu peux aussi être sous la neige en train de faire l'ascension.
C'est vrai, j'oubliais ce détail.
Non, mais il faut quand même
te tenir debout. Alors, dans un cimetière.
Te tenir debout dans un cimetière. Excuse-moi, attends. En vrai, on va arrêter de... Là, ce que tu nous présentes,
oui.
Sans plaisanter, est-ce qu'on n'est pas... Là, on donne un nom freeform, mais moi, j'appellerais ça expérimental. C'est-à-dire qu'on est plus dans le...
Je suis...
Dans la drogue, enfin, toi, dans les trucs comme ça, quoi.
On est dans la drogue.
Pour moi, c'est expérimental et c'est pas expérimental puisque The Climb, c'est un jeu qui a été testé et moi je l'ai testé et il fonctionne très bien. Pour moi, expérimental, c'est quand tu crées ce jeu et tu te dis, est-ce que ça va marcher à la table?
Non, 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 moi je pensais expérimental, c'est une expérience.
Oui, ça je...
Tu vois, c'est-à-dire qu'on sort complètement des sentiers battus, ça n'a plus aucun rapport avec rien et on se contente de... Enfin, on se contente, c'est pas se contenter, c'est compliqué, mais c'est-à-dire qu'on fait en sorte de faire jouer des gens dans des situations de jeu de rôle telles que je l'imagine en psychologie ou en psychiatrie.
Alors, effectivement, pour The Father, là, il y avait vraiment un but de faire un jeu de rôle cathartique, avec une logique...
Même celui avec le cimetière, là.
Celui avec le cimetière, oui. Alors, effectivement aussi, celui avec la danse, non. Et autre jeu,
celui avec la danse, c'est un simulacre pour essayer de pécho des meufs quand tu savais, t'arrives pas à faire autrement, quoi. Mais sinon,
pour The Climb, je vois pas vraiment de logique psychologique. Mais là, c'est vrai qu'en fait, ils donnent un nom pour ce type de jeu. Ils appellent ça les jeux close to home, à savoir où on va jouer des situations qui sont des situations de la vie courante ou en tout cas des drames plutôt quotidiens. Et c'est vraiment un mode de jeu qui est très présent dans le jeu de rôle freeform.
Il y a plus de lait RPG.
Alors pour moi, je pense que c'est à la fois une raison historique finalement. Le jeu de rôle freeform s'est beaucoup inspiré du théâtre d'improvisation, donc on avait des thématiques un petit peu différentes. Enfin, contrairement au jeu de rôle qui partait du wargame, là on partait finalement du film d'auteur ou du théâtre. Je pense qu'il y a aussi une autre explication pour le fait qu'on ait beaucoup de jeux de ce type, c'est qu'au final, la simplicité des jeux fait qu'on a envie de se centrer sur des thématiques vraiment intimes. Enfin, pour moi, quand on a un jeu dont l'enjeu, c'est sauver le monde de l'invasion de Cthulhu, on n'a pas vraiment le temps de se poser des questions de comment est-ce que mon couple il va vraiment évoluer.
Je t'arrête tout de suite. Si on a envie de le faire, on peut le faire.
Oui, mais de fait, on le fait moins. Alors, autre exemple quand même, donc il y a le... Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'un petit peu moins déprimant à donner? Oui, il y a quand même deux autres choses que j'aimerais dire, mais sans forcément citer de jeu. Il y a une idée de rapprocher le jeu du théâtre d'improvisation. Donc, on voit beaucoup de jeux et de guides de jeux, par exemple celui de Lizzie Stark, qui vont dans le sens de donner des conseils aux joueurs pour rebondir sur les avis des autres, enfin sur les actions des autres joueurs. Donc, une logique importé directement du théâtre d'impro. Et dernière logique, il y a des jeux où on va ritualiser quelque chose pour des jeux où on raconte des histoires. Donc, alors, sinon, une conclusion quand même, c'est un type de jeu qui a l'air pour l'instant vraiment underground, mais qui, à mon avis, va grimper et va devenir de plus en plus mainstream. Donc, j'en veux pour preuve que... alors, un exemple, c'est Hill Folk, donc qui a eu, c'est un jeu qui a été kickstarté, dernier jeu de Robin Dello, et qui a gagné quand même presque 94 000 dollars une fois pour le Kickstarter, qui a une version freeform dans le supplément écrit par Emily Kerbos, qui est une auteure de beaucoup de jeux freeform, et on prépare des versions freeform de jeux comme Fiasco, et là ça va faire plaisir à Callisto de Monster Heart. Et enfin, il y a aussi un jeu, dernier jeu dont je vais parler très rapidement, c'est le jeu de Grégory Pogorzelski, que vous avez eu l'occasion d'inviter dans cette émission. Oui. C'est pas un jeu qui se qualifie comme freeform, mais je pense qu'il s'en est inspiré. C'est un jeu qui s'appelle Technique d'interrogation à l'usage des agents de la fonction publique de la glorieuse République populaire de Strana.
Et donc, on a déjà parlé en plus. Du Game Chef.
Ouais, c'est un jeu Game Chef, et donc c'est un jeu où on joue un interrogatoire. Et là, pour moi, il y a un côté freeform parce que on est autour d'une table, on est face à face, on est deux joueurs, mais en même temps, on est dans une situation qui est presque un grandeur nature. Puisque on joue un interrogatoire avec quelqu'un qui est en face de nous et quelqu'un qui est et un interrogateur et quelqu'un qui est interrogé. Donc on reproduit une situation. Enfin, il y a une mise en scène finalement un peu théâtrale dans ce jeu. Voilà. Donc voilà pour le jeu de rôle freeform.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup. On en reparlera sans doute parce que moi je suis très intrigué. Dans le bon sens, c'est même pas des bêtises que je dis. Ça m'intrigue vraiment. Je suis pas convaincu pour le moment. Mais...
Alors moi, je pense que si vous n'êtes pas convaincu par les thématiques du freeform, je pense que ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que on peut faire des jeux de freeform très facilement. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'en écrire un en moins de 24 heures pour le Game Chef. C'est presque aussi simple que d'écrire un scénario pour un jeu. En fait, c'est vraiment extrêmement simple.
C'est pas très simple, mais oui, vas-y.
Oui, oui. Et enfin, c'est pour moi encore plus simple que d'écrire un scénario. Et donc. On peut imaginer voir venir des jeux qui ont des thématiques un petit peu plus mainstream ou en tout cas plus proches des univers geeks qu'on a. Enfin,
ok, d'accord. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, on fait une petite pause. À tout de suite.